Une histoire particulière. Connaissez-vous l'Endurance ? C'est un navire mythique, celui de Ernest Shackleton. En 1914, il part pour une première tentative de traversée de l'Antarctique. C'est une expédition polaire qui tourne mal. Le bateau est rapidement prisonnier des glaces, c'est le début d'une longue agonie. Mais c'est aussi l'histoire d'un sauvetage désespéré par un homme hors du commun. Durant les premiers jours du dégel, Shackleton lève le camp dans les canaux de sauvetage et décide d'aller chercher de l'aide avec cinq de ses compagnons. 1300 km dans une barque sur les mers les plus hostiles du globe. L'un des récits de survie les plus légendaires de l'histoire.
21 novembre 1915. Ce soir, comme nous étions couchés dans nos tentes, la voix du patron retentit. « Hey, boys, elle disparaît !» À 1,5 mille de là, notre pauvre bateau subissait les derniers spasmes de l'agonie. L'arrière se souleva d'abord, puis s'enfonça rapidement, et la glace se referma sur lui pour toujours. Quand il s'enfonça silencieusement dans sa tombe sous la glace qui nous portait, il nous sembla que le moment d'une grande séparation était arrivé. Toutes nos bonnes réunions, les heureux moments et les incidents de notre vie à bord, 1000 souvenirs sombraient avec lui. Je doute qu'un seul de nous n'ait pas ressenti un certain pincement au cœur lorsque, du haut de l'observatoire, Sir Ernest déclara avec calme et tristesse « C'est fini, boys !»
Vie et mort de l'Endurance par Yves Aumont et François Teste. Deuxième épisode, une plongée dans l'obscurité glacée.
La découverte d'un bateau mythique. L'épave de l'Endurance a été localisée lors d'une expédition dans la mer de Weddell, au large de l'Antarctique. Après avoir passé 107 ans à plus de 3000 mètres de profondeur, le bateau du célèbre explorateur Ernest Shackleton est intact. Pour cette expédition, l'équipe a utilisé des technologies de pointe, notamment ces deux drones sous-marins pour explorer la zone, décrite par Shackleton lui-même comme la pire portion de la pire mer du monde, en raison de ses conditions glaciaires. L'Endurance avait pris la mer en 1914 pour tenter la première traversée du continent antarctique, mais en janvier 1915, le navire se retrouve pris par les glaces. Emprisonné pendant des mois, le trois-mâts de 44 mètres est lentement brisé par la glace. Il coule en novembre 1915 à seulement 160 km de l'Antarctique.
Février 2022. Le Cap, Afrique du Sud. Fin de l'été austral. Le brise-glace SA Agulhas II part à l'aventure. À son bord, un équipage paré pour affronter les 50e rugissant et les 60e hurlant. Destination, la mer de Weddell, pour une plongée à 3000 mètres sous la banquise.
L'Endurance, c'est un rêve chez les Britanniques depuis le jour où elle a disparu. Shackleton, c'est quelqu'un qui est adulé au Royaume-Uni. C'est quelqu'un qui est enseigné à l'école primaire. Ça a un impact dans le monde anglo-saxon qui est égal, voire supérieur à la découverte du Titanic.
Et vous, Nicolas Vincent, comment êtes-vous entré dans cette histoire ?
Il y a eu une expédition en 2018-2019 qui avait été organisée et appuyée par le même bienfaiteur. Et là, ça s'est très mal passé. Donc ils ont perdu un drone sous-marin et donc ils ont dû rentrer. Donc alors même qu'ils étaient encore sur site, le bienfaiteur m'a téléphoné et il m'a dit « Nico, on y va en 2022, trouve une solution ».
Qui êtes-vous, Jean-Christophe Cayens ?
Je suis un ex-officier de marine. Depuis 12 ans, depuis que j'ai quitté la marine, j'ai travaillé pour une société franco-britannique, DeepOcean Search, et j'ai participé à toutes les recherches d'épaves de ces 20 dernières années. Mon rôle proprement parlé, c'est de diriger les équipes qui font ces recherches. Alors dans l'équipe, on peut avoir du mécanicien hydraulicien, mais on a aussi des ingénieurs en bathymétrie, c'est-à-dire des gens qui ont été formés pour utiliser et analyser des images qui vont nous être amenées par les engins qu'on va envoyer au fond. On a aussi des pilotes de robots, les robots téléopérés qui nous permettent de travailler jusqu'à 6000 mètres de profondeur. Et moi, j'encadre ces équipes, on me définit les objectifs, on me donne des moyens. C'est un métier très prenant et très enrichissant.
Jean-Christophe Cagnas, vous avez travaillé sur de nombreuses épaves, lesquelles ?
Pour ce qui concerne les épaves de bateaux, je vais commencer par le City of Cairo. Le City of Cairo était un bateau britannique coulé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec 100 tonnes de pièces d'argent à bord. Il avait coulé à 500 nautiques au sud de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique. Donc on a retrouvé cette épave, et pour le gouvernement britannique, on a remonté la totalité de la cargaison, 100 tonnes de pièces d'argent, à 5300 mètres de profondeur, ça n'avait jamais été fait. Plus récemment et plus médiatiquement, on a recherché avec succès et retrouvé l'Endurance sous la banquise, sous la mer de Weddell, en Antarctique, qui était définie comme étant l'épave la plus introuvable du monde.
Une expédition comme Endurance 22, Nicolas Vincent, c'est beaucoup d'argent, c'est un temps limité. Comment ça se passe ?
Alors oui, c'est beaucoup d'argent, plusieurs millions de livres. Donc moi, depuis août 2020, je travaille à 100% sur ce projet. Donc il a fallu d'abord trouver la solution pour résoudre ce problème, pourquoi on avait perdu ce véhicule et comment faire pour que ça ne se reproduise pas. C'est là où on a décidé, enfin j'ai décidé qu'il fallait qu'on passe sur un véhicule doté d'un ombilical. Donc on a décidé de le raccorder avec une fibre optique et vous pouvez avoir l'équipe qui regarde les images en temps réel et qui les analyse en temps réel. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'Endurance, puisque dès qu'on l'a eu détecté, on a pu interrompre le plan de travail, programmer le véhicule immédiatement avec un nouveau plan et entamer immédiatement la signature haute résolution de l'épave.
Pour travailler en Antarctique sur une mer qui va être de la glace, donc pour casser la banquise, on va utiliser un brise-glace. Il n'y en a pas 36 dans la zone. Bien évidemment, on choisit un bateau qui est capable non seulement d'accueillir toutes nos équipes, mais tout notre matériel, qui va être capable aussi de nous produire une certaine aisance, un certain confort de vie pendant l'expédition. Donc on a choisi la Gulas, qui est un bateau sud-africain, et qui est un brise-glace, et qui fait plusieurs rotations par an vers l'Antarctique. On est parti à la bonne période, début février, il fait encore chaud. En Antarctique, il fait que moins 15, moins 20. Les conditions climatiques au niveau du vent ne vont pas nous gêner. La mer de glace va avoir une dérive erratique, mais quand même prévisible à 24 heures, donc on va pouvoir travailler. Donc on a choisi cette période. De Cape Town, la route est longue pour aller jusqu'en Antarctique, jusqu'à la mer de Weddell. Hein, il nous faut quand même plus de 10 jours. En naviguant à une très bonne vitesse, hein, 15-16 nœuds, on va quand même traverser les 40e, les 50e, les 60e. C'est quand même quelque chose qu'il faut vivre. Les vagues sont gigantesques. La période des vagues est très très longue, donc très fatigante pour les organismes. Et quand on va arriver donc sur la mer de Weddell, malgré les images satellites, malgré tout, il va falloir se concentrer sur cette dérive de banquise, aller chercher le point de recherche théorique et mettre notre bateau au milieu et le laisser dériver avec la banquise pendant qu'on intervient.
Une expédition comme Endurance 22, c'est d'abord un brise-glace, le SA Gulas 2, un équipage de combien de personnes ? Combien de personnes étaient à bord et combien de temps ça dure, une expédition comme la vôtre ?
La Gulas, c'est un équipage de 45 personnes. Pour ce qui est de l'expédition, on était 65 personnes. Alors pourquoi autant de personnes ? Il fallait être prêt pour tout incident, tout scénario. Et un des scénarios était que dans le cas où le navire ne pouvait atteindre la verticale de l'épave, il fallait déployer un camp sur la glace. Donc pour cela, on a passé des mois et des mois à construire des machines pour permettre un drone qui, je le rappelle, est la taille de votre SUV, c'est-à-dire hein, il fait 4,50 m de long, 1,5 tonnes, un peu plus, 1,7 tonnes, presque 2 mètres de large. Et il faut faire passer ce véhicule à travers un trou dans la glace qui peut être, à cette saison-là, jusqu'à 5 mètres d'épaisseur. Donc quand on a cherché à savoir comment on allait faire, on s'est aperçu que ça n'avait jamais été fait. Donc il a fallu qu'on développe une machine pour faire des trous dans la glace. Donc il a fallu trouver des hélicoptères qui étaient capables de porter toutes ces charges. Donc c'est pour ça qu'on avait une équipe d'hélicoptères d'environ 14 personnes. Également, il y avait un autre département qui était des gens qui étaient là pour encadrer notre sécurité sur la glace. Il y avait ensuite une équipe média très importante. Je crois encore une fois, on parle de 14 personnes. Et puis pour finir, évidemment, une équipe scientifique qui était là pour étudier la glace. Sans oublier une équipe d'Allemands qui était en charge de nous donner les images satellites de glace. Parce que pour plonger sous la glace, là aussi, il a fallu inventer des procédures. Et les images satellites et aussi les modèles mathématiques de prévision des dérives des glaces ont été vraiment quelque chose d'absolument indispensable à la réussite de ce projet. On n'aurait pas trouvé l'endurance sans ça non plus.
Quel était votre rôle, Frédéric Basmaïus, dans cette expédition ?
Déjà, j'avais un contrat où il était interdit de dormir au départ. Donc, c'était pas prévu au contrat. Mais Nicolas, des fois, fait appel à moi en me disant que j'étais un peu un couteau suisse. Donc, au départ, il y avait deux compétences. Une des premières, c'était le fait d'être plongeur. Donc, avec Jean-Christophe Caillens, qui est un grand plongeur aussi, nous avions la responsabilité. Dans le cas où la machine, donc l'engin que nous avons utilisé, se retrouve bloqué sous la glace, d'avoir en dernier recours la possibilité d'aller le chercher. Donc nous avions du matériel spécifique pour la plonger sous glace. Alors heureusement, ce n'est jamais arrivé. Malheureusement, j'ai jamais plongé là-bas. Et la deuxième partie, c'est que Nicolas Vincent avait pensé à plusieurs scénarios, dont un des scénarios était que l'on ne pouvait pas accéder proche du site de l'Endurance, ou tout du moins de la boîte qui avait été définie pour chercher l'Endurance, et donc de fabriquer des outils spécifiques pour aller sur la glace et faire la manip. Et mon travail, c'était d'organiser ça. Nous avons eu la chance de pouvoir faire tous les launchings à partir du bateau. Donc j'ai repris mon poste que j'occupe chez DOS quand je travaille avec eux, c'est-à-dire que je suis deckmaster, chef de pont. En gros, l'organisation du bateau, assurer la sécurité du personnel sur le pont. Et c'est vrai que dans des conditions comme ça, il faut faire attention à tout. Le froid, la glace, la neige, le personnel, des portes ouvertes, donc il faut faire attention à tout ça. Et d'organiser les mises à l'eau et la récupération de l'engin.
Normalement, quand vous cherchez une épave, les historiens vont vous donner une zone à couvrir, une boîte. Donc cette boîte, il y a quatre coordonnées. Et puis ben, vous partez d'un point A à un point B. Donc, vous pouvez aller de l'est à l'ouest, du nord au sud, du milieu à un bord. Vous faites comme vous voulez, mais il faut tout couvrir. Et puis quand on va revenir sur la plongée suivante, il faut qu'on fasse du recouvrement pour être sûr qu'il n'y a pas de trou de couverture. Parce que s'il y a un trou de couverture, vous pouvez être sûr que c'est là qu'elle est.
C'est un vrai travail d'archéologie sous-marine.
Absolument pas. Ce n'est pas notre rôle de dire où il faut chercher. Par contre, nous, notre rôle, c'est de dire si dans cette boîte, c'est là ou c'est pas là. Moi, j'avais calculé avant de partir qu'il me fallait 22 jours pour couvrir 100% de la boîte. Et donc, quand on l'a trouvé au 18e jour, on était à 80% de la couverture de la boîte.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, François Massé ?
Donc j'ai fait 28 ans dans la marine, je suis sorti en tant que major, et puis depuis 12 ans maintenant je travaille auprès de la société Deep Ocean Search, qui est principalement pour la recherche d'épaves, et donc je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est analyse des données sonar.
Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran du sonar ? On voit des lignes, des points, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi.
Alors sur un fond plat et propre, on ne va pas voir grand-chose, des petits points noirs. Dès l'instant où quelque chose se détache de ce fond, on va voir ces petits points noirs, mais derrière, des petits points blancs. Donc c'est ce contraste, en fait, avec d'un côté l'écho, donc qui va être noir, et l'ombre derrière blanche, va nous permettre d'analyser plus précisément le type d'écho sonar. Alors ça peut être du rocher, bien sûr, hein. Principalement, d'ailleurs, c'est du rocher, ou des reliefs, hein, des petites falaises, des trous. Donc on s'habitue à cette image-là, on se l'imprègne un petit peu, c'est une empreinte rétinienne. Et puis à un moment donné, ben, on va voir quelque chose qui, moi j'ai tendance à dire incongru, quelque chose qui n'a rien à faire là. Alors ça peut être un simple artefact, ça peut être, malheureusement on en voit de plus en plus, des débris, des fûts, des choses comme ça. Et puis évidemment l'épave qui elle va ressortir beaucoup plus nettement, c'est pas toujours le cas en fonction de son état bien sûr, mais normalement ça ressort un peu plus nettement.
La zone que vous avez explorée, elle représente quoi en superficie ?
je crois que c'était 15 km par 8. Il y a une petite zone, mais la principale difficulté, c'est qu'en fait, on avait assez peu de temps pour la courir, quoi. Puisqu'il fallait que le bateau puisse se déplacer, donc casse la glace pour aller d'un point aux différents points de plongée. Ensuite, la plongée en elle-même, déjà par la mise à l'eau de l'engin, n'est pas toujours évidente, mais ensuite l'autonomie du véhicule fait qu'on était quand même assez restreint en termes de temps passé sur le fond. Donc à chaque fois, c'était des plongées relativement courtes, hein, de l'ordre de entre 6 et 10, 12 heures. Donc il fallait à chaque fois anticiper pour savoir où allait se dérouler la prochaine plongée. Cette zone, en fait, était découpée en petits carrés. Donc on essayait de faire des petits carrés de nautique, 2 km par 2 km, quoi, pas plus, voire 2 par 1 km. Et donc il fallait essayer à chaque plongée de pouvoir faire ces petits carrés et au fur et à mesure, en fait, comme un Pulse, hein, essayer de compléter cette zone.
Jean-Christophe Cayens, c'est à la fin de la mission que vous avez trouvé l'Endurance. Vous aviez combien de temps pour cette mission? Combien de temps vous étiez alloué?
Le bateau avait été affrété pour une durée fixe de 45 jours, avec une extension possible d'une semaine. C'est des contrats assez traditionnels dans le monde maritime, d'affrètement. Au bout de 15 jours de sur zone, on a activé la semaine supplémentaire. Et pendant cette semaine supplémentaire, on a trouvé l'Endurance. Il faut savoir qu'on a cherché dans une zone de recherche qu'on va qualifier d'un rectangle. On a fait 80% de cette zone avant de trouver l'Endurance. Alors, bien évidemment, on aurait pu la trouver au tout début. Mais après des années de recherche, on ne trouve jamais au début. Plutôt les derniers jours. Et donc, quelques jours avant la deadline, comme on dit, on a retrouvé cette épave et on a réussi à y passer suffisamment de temps avec différents capteurs pour pouvoir faire des images de la totalité de l'épave.
Ce 18e jour, Nicolas Vincent, vous pouvez me le raconter?
C'est une longue journée. Ce que je peux vous dire, c'est que aux alentours de 16 heures, l'équipe qui était sur la plage arrière dans le container a eu un écho magnifique. Et que à ce moment-là, ils ont d'abord averti JC, qui a confirmé que c'était magnifique. Mais je tenais beaucoup à ce qu'on reste très calme, parce qu'on avait eu quelques jours plus tôt, le 20 février, on avait eu déjà une grosse excitation sur ce qui n'était finalement que quelques débris, et non pas l'épave. Donc je voulais que cette fois, on reste très calme jusqu'à avoir une confirmation. Et j'avais imposé à l'équipe qu'on voit l'épave. Et là, le pilote de ROV qui est écossais me dit j'ai plus de batterie, il faut monter, faut remonter. Je dis non, on remonte pas tant que j'ai pas vu une image visuelle. Et là, à ce moment-là, on a allumé les projecteurs, les caméras, et on a fait route sur l'épave. Et on est arrivé sur son flanc bâbord. Bah, on avait tous les yeux écarquillés. On est monté sur le pont et on est remonté dans la ligne deux fois jusqu'à l'étrave. Et là, j'ai dit au pilote qui pleurait parce qu'on était en low batterie de remonter en surface. On avait trouvé l'Endurance.
Sur l'image sonar, on voit bien la forme d'un bateau. Mais on ne veut pas y croire, on cherche des morceaux. Nicolas va vous le dire, on cherchait des morceaux d'épave, on a trouvé la licorne de Tintin, donc on ne pouvait pas y croire. Après les lectures, des relectures, et puis après l'imagination que l'on a des conditions telles qu'elles ont été décrites d'un bateau qui est pris dans la glace, qui est écrasé, qui est broyé, les mots sont forts, le livre est très bien traduit, et même lorsqu'on le lit en anglais, on peut considérer que cette épave elle est perdue, et que l'on va retrouver sur le fond de la mer, parcellairement, des taches de bois. Donc on peut imaginer, quand la UV s'approche, effectivement, au fur et à mesure, la première lettre que l'on voit, c'est le E, et puis ce bout d'étoile, où C'est une profonde satisfaction, une profonde joie pour l'équipe aussi, même comme beaucoup n'y croyaient plus parce qu'il fallait absolument sortir de cette boîte et que nous on continuait, on continuera comme ça contre vents et marées. Et d'un coup, au moment où personne n'y croit, là ça arrive et c'est là où c'est fort.
Jean-Christophe Cayens, sous la banquise, à 3000 mètres, c'est l'obscurité totale.
3000 mètres, bien évidemment, il n'y a pas de lumière. Dans la mer de Weddell, donc, la température de l'eau est inférieure à zéro. Elle est à moins 1,8 degré. Donc elle ne gèle pas parce que ça gèle à moins 2, l'eau de mer. Mais c'est extrêmement froid, ce qui a pour incidence qu'il n'y a pas de vie à 3000 mètres. Vous n'avez pas de crabe, vous n'avez pas de poisson. Et donc sur l'épave, vous n'avez pas ces vers qui vont manger la coque de l'épave. Donc la coque est intacte au niveau bois. Les premières images, on est arrivé par l'arrière bâbord de l'épave. Et donc on a vu une première partie du mât qui est cassé. Donc il faut l'éviter avec le drone. Donc il est allé sur son tribord, il a fait son petit travelling. On était à 3-4 mètres. On voyait très, très nettement la coque. L'eau était limpide. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Et on s'est placé sur l'arrière de l'épave. Et à ce moment-là, est apparu en lettres dorées, Endurance, avec l'étoile Polaris, juste au-dessus, parfaitement écrit, parfaitement conservé. C'est là qu'on voit la barre à roue, qu'on voit les détails. Alors le nom, c'est quelque chose qui nous saute au visage, parce que c'est ce qu'on cherche. Donc là, c'est l'émotion, on se dit, ça y est, elle est trouvée. Et puis on voit le pont. On voit la cabine de Shackleton sur la droite, la cabine du capitaine sur la gauche avec leurs hublots respectifs. On se dit, c'est là qu'ils étaient. La barre à roue au milieu, le compas. On arrive au-dessus de la cuisine, le revêtement du sol toujours en place, le poêle pour faire la nourriture toujours à poste, la petite cloche du bateau pour sonner chaque repas. Donc un état de conservation magnifique, comme si elle avait coulé avant-hier.
Nicolas Vincent, quand vous étiez petit, vous rêviez de chercher des épaves, vous rêviez de la licorne.
C'est rigolo que vous parliez de la licorne, parce que des épaves, ça fait 30 ans que j'en trouve, dans tous les océans, y compris en bois, y compris en teak. Et cet état de préservation, on l'a jamais eu. Jamais, jamais, sauf pour la licorne de Tintin. Donc, et je dis ça à tout le monde, et ça fait sourire tout le monde. Mais là, on a mieux que la licorne de Tintin. L'Endurance, c'est mieux que la licorne de Tintin. C'est encore plus beau.
Quelle lumière, quelle couleur?
Ah, la Polaris. Une lumière qui brille. C'est comme quand vous regardez l'étoile du Nord. C'est quelque chose qui est incroyable. Donc la lumière, elle est donnée par un éclairage qui est merveilleux parce qu'ils ont fait un travail fantastique sur cette machine. Donc une lumière, une épave comme on pourrait l'avoir en Méditerranée dans 30-40 mètres d'eau. Un bateau relativement petit, ce qui fait que le halo de la UV, des lumières de la UV, sont suffisants pour englober juste cette épave, de juste cette bulle de lumière. Et cette bulle de lumière, elle nous entraîne, parce qu'en fin de compte, c'est comme un tunnel. Il n'y a rien qui est autour, il y a juste nous, derrière notre petit écran, et cette épave. C'est là où ça devient incroyable, c'est qu'on est rattaché à quelque chose, c'est palpable. Ouais.
Nicolas Vincent, vous avez laissé l'Endurance à 3000 mètres, qu'est-ce qui va se passer pour elle maintenant? On la remontera un jour?
Alors, il va se passer plusieurs choses. D'abord, il y a un plan de gestion qui est en discussion par le Royaume-Uni, puisque cette épave, elle est dans le cadre du traité de l'Antarctique, elle est gérée par le traité de l'Antarctique. Le Royaume-Uni va décider du plan de gestion qu'il va y avoir sur cette épave, en accord avec ses propriétaires, puisque les descendants de Shackleton sont propriétaires de ce navire. Concernant l'épave elle-même, il faut savoir que nous, ce qu'on a fait sur cette épave, on a déployé des technologies uniques au monde, qui n'avaient quasiment jamais été utilisées sur des épaves et même dans l'industrie sous-marine, qui sont en train, et je cite les fabricants de ces produits, en train de révolutionner la prise de mesures sous-marines. Et donc on a déployé un laser qui nous a reconstruit une image 3D de l'épave au millimètre près. Et par-dessus, on a drapé des photos 4K. Et donc on obtient, si vous voulez, une image en 3 dimensions de l'épave avec 1 mm de résolution. Et de cette manière, on a une image complète de l'épave en 3 dimensions qu'on peut tourner dans tous les sens et que les scientifiques vont pouvoir analyser pendant une décennie. De ce fait, déjà, le besoin de remonter l'endurance est inutile. Nous, on pense que très prochainement, on aura une expérience pour lunettes virtuelles sur lequel n'importe quel public pourra marcher sur le pont de l'endurance. On pourra l'imprimer en 3D. On pourra la refaire même à l'échelle pour une présentation quelque part. Donc, ce besoin n'existe pas. Et elle est protégée par le traité de l'Antarctique. Elle a un propriétaire. Puis, au-delà de tout ça, elle est protégée par une belle barrière qui s'appelle la glace, et que je dis pas que c'est impossible, mais pour aller ne serait-ce que chercher des artefacts ou la remonter, il va falloir beaucoup beaucoup d'argent et beaucoup beaucoup de moyens technologiques.
Lorsque nous étions sur l'Endurance, nous sommes arrivés le 15 février. 15 février, c'est la date de naissance de Shackleton. Nous avons trouvé l'épave le 5 mars. Le 5 mars, c'est le jour où il a été mis en terre en Géorgie du Sud. Lorsque je regardais les photos de cette époque, m'est apparu que la lumière était assez particulière. Donc je communique avec Manson Bund, qui était l'archéologue du bord, pour lui signifier cette information et pour qu'il recherche dans les archives l'heure à laquelle Shackleton aurait pu être enterré. Il s'avère que la cérémonie a lieu à 15h, donc la mise en terre a lieu entre 16h et 16h30. On a trouvé l'épave à 16h12, ce qui fait qu'on a trouvé cette épave-là 100 ans après que Shackleton ait été enterré. Et ça fait partie aussi de notre histoire.
C'était « Vie et mort de l'Endurance » avec Frédéric Basmaïous, Jean-Christophe Cayens, François Massé et Nicolas Vincent de l'expédition Endurance 22. Lecture du récit de Ernest Shackleton par Thierry Beauchamp. Référence des ouvrages évoqués sur franceculture.com. Coordination Christine Bernard. Attaché de production Sylvia Favre. Un documentaire d'Yves Aumont et François Teste.
Toutes les histoires particulières sont disponibles sur franceculture.fr et l'appli Radio France.